Chapitre 7. De nouvelles espérances engendrent un nouveau genre de vie. Une soirée. Agnès a du succès, ce que Mistress Barnaby n'approuve qu'à demi. Lord Mucklebury entre en correspondance épistolaire avec la veuve. Ceci fait monter des espérances au diapason le plus élevé. Mais Lord Mucklebury quitte Cheltenham. Lord Mucklebury était un bon vivant dans toute l'acception du mot. Il aimait presque autant une bonne plaisanterie qu'un bon dîner, et on l'aurait plus volontiers cité pour ses bons mots que pour ses grandes actions. Il avait joui de la vie qui, pour lui, avait eu moins de mécomptes douloureux qu'elle n'en a pour la plupart des hommes. Et quand il eut atteint l'âge de 40 ans, il demeura persuadé, avec tout le sérieux dont il était capable, que le seul privilège qui donna quelque valeur à l'aristocratie était la faculté dont jouissaient, ou dont pouvaient jouir ses membres, de se divertir selon leur bon plaisir. La nature l'avait doué d'un heureux naturel, mais le plaisir l'avait gâté. Après avoir plaisanté avec chacun, pendant la série de ses 20 premières années, pendant la période des 20 autres, il s'était aperçu qu'il était encore bien plus drôle de se moquer de chacun. Et à l'époque où il fit la connaissance de Mistress Barnaby, la réputation d'homme d'esprit dont il jouissait reposait surtout sur son aptitude à découvrir les ridicules de son prochain et à les mettre en évidence avec une audace que rien ne faisait reculer. Après avoir fait remarquer Mistress Barnaby à plusieurs de ses habiles amis, comme la plaisanterie à laquelle il avait l'intention de se livrer pendant les 3 ou 4 semaines de retraite qu'il se soumettait à passer chaque année à Cheltenham, il devenait nécessaire à son honneur de pouvoir démontrer qu'elle était assez ridicule pour mériter cette distinction. Et il savait fort bien que ce qu'il y avait de mieux pour la rendre parfaite en ce genre, c'était qu'il fît assez d'absurdité lui-même pour tenir sa vanité en éveil. L'affaire lui convenait à merveille. Elle promettait un peu de fatigue et beaucoup d'amusement. De sorte qu'au moment où Mistress Barnaby se mettait en tête qu'elle accaparerait et qu'elle porterait la couronne de sa seigneurie décidait de son côté, avec une égale sincérité dans son espoir de réussite, qu'elle ferait de Mistress Barnaby la fable de la saison. Après avoir fait subir à Miss Morrison un examen de près d'une heure sur la manière d'être du beau monde pendant la saison, la veuve se convainquit que, tout dispendieux que lui avait semblé l'hôtel où elle habitait, il était loin d'être ce qui devenait nécessaire à ses projets. Il lui fallait une voiture, il lui fallait un grand valet de pied, il lui fallait une élégante femme de chambre. Et grand fut l'honneur que firent aux ailes et à l'activité de l'incomparable Miss Morrison, la hâte et la promptitude avec lesquelles ces articles indispensables furent découverts. On pourra s'en faire une idée quand on saura que la voiture qui conduisit ces dames à la demeure de Lady Elizabeth Norris était une voiture louée pour la saison, avec les chevaux, le cocher et tout le reste, et de plus que le dimanche d'après, la veuve entrait à l'église, suivie d'un individu de 6 pieds de haut, en grande livrée, le premier qui était venu se présenter en réponse aux ardentes réquisitions faites dans une demi-douzaine des magasins de la ville. Agnès vit tout cela, d'abord, avec un étonnement qu'un peu de réflexion convertit en un grand tourment. Elle ne savait absolument rien du chiffre de la fortune de sa tante, mais elle la voyait se livrer à de telles dépenses, avec une étourderie si désordonnée, qu'en dépit de son ignorance, le résultat la faisait trembler. L'idée qu'en persévérant dans son travail, elle pourrait se mettre en état de prendre une place d'institutrice était ce qui l'aidait à se consoler. Mais Agnès évaluait très haut les talents qu'exigeait un pareil poste. Aussi se réjouit-elle grandement quand elle découvrit que sa tante la laissait entièrement maîtresse de son temps, la priant rarement de sortir avec elle et recevant ses excuses quand elle ne voulait pas l'accompagner, avec un degré de complaisance qui prouvait clairement qu'elle ne lui était pas désagréable. La soirée de Lady Elizabeth Norris avait lieu 5 jours après le bal, et avant que ce jour arrivât, Mistress Barnaby avait déjà acquis la conviction la plus ferme de l'attachement dévoué ainsi que des honorables intentions de Lord Mucklebury. si sa seigneurie n'avait pas été invitée aussi, Mrs. Barnaby eut incontestablement mis l'engagement de côté, quoique peu de jours auparavant, ce même engagement eût semblé être pour elle comme l'ouverture du paradis. Mais sa manière d'apprécier toute chose était bien changée. Dans tous ses raisonnements, elle était déjà vicomtesse, et la seule personne peut-être dont la valeur n'eût pas changé pour elle était la pauvre Agnès. « S'il vous plaît, mademoiselle Agnès, vous convient-il d'aller chez Lady Elizabeth Norris ce soir ?» dit Mrs. Barnaby, tandis qu'elle surveillait les préparatifs que sa nouvelle femme de chambre faisait pour sa toilette avec toute l'assiduité convenable. « Oh oui, ma tante, si vous n'y faites aucune objection, j'aimerais beaucoup y aller. »« Eh, mais enfant, si vous le désirez, vous le pouvez. J'ai dans l'idée que ça doit être assez assommant. » « Vous mettrez la même toilette que vous aviez au bal, ma femme de chambre vous coiffera. » Toutefois, malgré toute cette augmentation de grandeur, Agnès fut quelque temps sans deviner ce qui se passait. Elle n'avait jamais vu Lord Mucklebury autrement qu'au bal, et elle ne pouvait s'imaginer qu'une connaissance aussi fugitive pût être la cause de tout ce qu'elle voyait et entendait. Si Agnès avait eu le cœur léger, comme au temps où, assise sur sa malle dans sa petite chambre de Clifton, elle écoutait les spirituels cancans de son amie Marie, la soirée d'Elisabeth eût pu être pour elle fertile en amusement. Mais dans les circonstances actuelles, elle s'assit bien tristement, toute seule dans un coin. Car durant toute la première partie de la soirée, Sir Edward Stephenson et sa femme furent absents, ayant dîné en ville, dans une maison où on les avait retenus bien au-delà de l'heure à laquelle la majorité des invités de Lady Elizabeth étaient réunis. La spirituelle vieille dame n'avait besoin de l'aide de personne pour accomplir la tâche de recevoir son monde. Car, pour dire la vérité, elle ne se faisait guère de soucis sur la manière dont il serait reçu. Son seul but, en invitant tous ces gens ensemble, étant de s'amuser elle-même, elle y parvenait en se servant de moyens plus désagréables pour les simples spectateurs comme Agnès que pour ceux dont on attendait l'active participation. Pendant la première période de la soirée, il vint peu de monde, si l'on en excepte les personnes auxquelles Lady Elizabeth avait recommandé de venir de bonne heure, et parmi celles-là, il n'y en avait pas une qui ne se fît remarquer par certaines de ces singularités qui réjouissaient si fort la vieille et fantasque Lady. Elle avait la coutume de s'asseoir dans un immense fauteuil avec une petite table devant elle. Il y avait sur cette table du thé, du café, de la glace, des biscuits ou quelque autre friandise qu'elle s'administrait avec aussi peu de cérémonie que si elle eût été seule. De plus, un ou deux livres et deux bougies ornées d'abat-jour vert ne manquaient jamais de faire partie des préparatifs de ses plaisirs nocturnes. Si son public ne valait pas ce qu'elle en avait attendu, elle ne se faisait aucun scrupule d'avoir recours à ses livres. Chaque personne qui entrait s'approchait de ce trône pour présenter ses compliments à sa seigneurie, puis allait s'asseoir à quelque distance, une seule chaise ayant la permission de rester auprès d'elle. C'était à cette place qu'elle conviait l'un après l'autre ceux qu'elle aimait à entendre causer, les renvoyant quand elle en avait assez de leur conversation, avec ce manque total de la plus élémentaire politesse qu'elle montrait à tous ces gens assez mal avisés pour se rendre à ses commandements. Son neveu et sa nièce lui avaient souvent fait des représentations au sujet de cette étrange manière de recevoir. Mais elle se défendait en disant « Je suis aussi polie qu'il le mérite. Mon titre est le duc admet, qui attire ces imbéciles dans mon salon, et tant que je ne cesserai pas d'être Lady Elizabeth, ils ont ce qu'ils sont venus chercher. » Pour la plupart, tous ces gens qui étaient là avaient l'air grotesques plutôt que distingués, et la grandeur nouvellement éclose de Mrs. Barnaby se trouva un peu blessée quand elle remarqua combien il y avait peu de personnes parmi toutes les personnes présentes qui fussent mises de manière à mériter l'honneur de se rencontrer avec elle et avec sa toilette. De plus, Lady Elizabeth la reçut très froidement, quoiqu'elle dît à Agnès « Comment allez-vous, ma chère? Lady Stephenson sera ici tout à l'heure. » « Quelle grossière ignorance des bonnes manières !» pensa la veuve, tout en se retirant vers un sofa d'où l'on voyait facilement la porte par où tout le monde entrait. Malgré son titre, il faut que cette femme ait été bien mal élevée. Si, par mon second mariage, j'ai le bonheur d'avoir des descendants, mon premier soin sera de leur enseigner les manières qui conviennent à leur rang. » Les ridicules de tous les invités de Lady Elizabeth ce soir-là n'eurent rien d'assez piquant pour justifier un récit détaillé. Nous dirons seulement qu'un vieux monsieur fut appelé à l'honneur d'occuper la fameuse chaise pour dire à sa seigneurie combien, par le simple procédé du serment, il avait converti en buveur d'eau des masses d'ivrognes mâles et femelles. Après lui, une dame vint réciter des vers de sa composition. Une autre improvisa une légère dissertation sur la métaphysique. Miss Morrison aussi eut son tour et vint entretenir Milady dans le français qui lui était propre. Mais tout cela réuni n'arrivait pas à rendre la soirée agréable et Lady Elizabeth se mettait en demeure d'arranger les abat-jours de ses bougies pour pouvoir lire tout à son aise, quand, jetant un coup d'œil circulaire sur toute la chambre, ses yeux rencontrèrent Agnès. Elle fut sur le point de l'appeler par son nom. Mais la figure délicate de la jeune fille portait une expression si calme et si modeste que l'impérieuse Lady ne se sentit pas le courage de la troubler et, au lieu de lui parler, elle s'adressa à sa tante. « Mistress Mardabé, dites-moi, je vous prie, votre jeune personne joue-t-elle du piano? Chante-t-elle? Nous sommes terriblement assoupis ce soir, je trouve. Si elle le peut, je lui serai vraiment fort obligée de nous favoriser d'un peu de musique. L'instrument de Lady Stephenson est excellent. » Mistress Mardabé était si mécontente de sa réception et tellement hors d'elle-même de ce que Lord Mucklebury n'arrivait pas qu'elle répondit, avec autant de mauvaise grâce que possible, « Je ne vois pas comment elle pourrait divertir votre seigneurie. » Mais quelle ne fut pas la surprise de la veuve quand elle vit Agnès, si peu disposée d'ordinaire à présumer de ses forces, se lever, quitter sa chaise éloignée et s'avancer sans trembler à travers toute la société vers Lady Elizabeth pour lui dire d'une voix basse mais très distincte « Je chante un peu, je joue aussi un peu du piano, Lady Elizabeth, et si votre seigneurie désire que j'essaie maintenant, je serai heureuse de la contenter. » Lady Elizabeth fut peut-être tout aussi surprise que Mistress Mardabé. Mais quoiqu'elle ne comprît pas quel était le sentiment qui poussait Agnès à vouloir lui être agréable, elle en fut fort aise et, se levant de son fauteuil pour la première fois de la soirée, elle la prit par le bras et la conduisit au piano. « Votre seigneurie aime-t-elle la musique ?» dit Agnès, toute tremblante de sa témérité, mais se mourant d'envie d'être favorablement remarquée par la tante du colonel Hubert. « Oui, ma chère, je l'aime beaucoup, » répondit la vieille dame. « C'est une des faiblesses de notre famille. Je crois que nous l'aimons tous beaucoup. Quel genre de musique votre seigneurie préfère-t-elle, l'ancien répertoire ou le nouveau ?» dit Agnès. « L'ancien, très évidemment, » répondit-elle. « Mais à votre âge, mon enfant, et dans l'état actuel où en est la science musicale, il est peu vraisemblable que vous puissiez satisfaire mon caprice pour la vieille mode. » « Je n'ai guère étudié que les anciens maîtres, » reprit Agnès en tournant les pages d'un volume de Handel. « Dites-vous vrai, ma petite fille, alors je vais m'asseoir à côté de vous pendant que vous jouerez. » Agnès, charmée, tout étonnée de son propre courage, plaça avec empressement près d'elle une chaise pour la vieille dame et, avec un battement de cœur qui ressemblait presque à du bonheur, elle choisit l'air qui avait produit sur le colonel Hubert un effet qu'elle ne saurait jamais oublier. Il avait fait venir des larmes aux yeux du vaillant soldat et avait amené sur ses traits une expression de douceur si dangereuse que la pauvre chanteuse n'avait jamais pu s'en remettre depuis. Chanter de nouveau cet air à l'oreille de sa tante, c'était comme si elle retournait vers lui. Et le soulagement que cette circonstance apportait à la crainte terrible qu'elle avait eue de l'avoir perdue de vue pour toujours, non seulement lui donna le courage de se mettre à la place qu'elle occupait en ce moment, mais lui inspira une telle animation, une telle habileté, une telle puissance, qu'elle chanta avec une perfection inconnue pour elle jusqu'à ce jour. Dès le premier moment, Lady Elizabeth n'avait accordé qu'une attention aimable en retour de l'effort qu'on faisait pour se rendre à son désir. Mais, longtemps avant que l'air ne fût terminé, elle avait oublié de quelle façon elle avait obtenu cet effort, elle avait tout oublié, excepté son profond ravissement et son admiration pour la belle sirène qui lui causait une si douce jouissance. Silencieuse, immobile, elle attendit que la dernière note de la symphonie eût vibré. Se levant alors et se penchant sur Agnès, elle la regarda pendant un moment avec ardeur, puis elle se mit à baiser son beau front, une fois, deux fois et encore, avec une cordialité qui la remerciait mieux que toutes les paroles n'auraient pu le faire. Agnès fut grandement touchée, grandement récompensée, et, oubliant que ce n'était guère le moment de se laisser aller à des sentiments qu'il était aussi impossible qu'inopportun de faire comprendre, elle saisit la main de la bonne dame, la pressa sur son sein, et, levant sur elle des yeux baignés de larmes de joie, elle lui dit d'un ton profondément ému,
« Je suis heureuse que vous m'aimiez !»«
Vraiment, quel petit trésor vous êtes !» s'écria Lady Elizabeth, tout animée, à demi attendrie. « Elle est aussi originale que tous mes étranges invités réunis, et en même temps, elle est aussi remarquable par son charme et par son talent qu'ils le sont, eux, par l'absence totale de ces deux éléments. Où avez-vous fleuri, mon beau Lys ? Et comment se fait-il que vous ayez été transplanté jusqu'ici par une pareille... Mais il n'est pas question de cela maintenant. Si nous allons bien ensemble, nous aurons bientôt fait plus ample connaissance. Comment puis-je vous appeler, ma jolie mignonne ?
Agnès, s'il vous plaît, Lady Elizabeth.
Agnès Willoughby, répondit l'heureuse fille, de plus en plus ravie d'avoir eu la hardiesse de prendre sa résolution. Il faut que vous veniez me trouver demain matin, Agnès, pendant mon déjeuner. À 10 heures, souvenez-vous, car alors je suis seule, et préparez-vous, mon enfant, à me parler de vous, car je ne puis rien y comprendre, et quand je puis l'éviter, je n'aime pas à rester longtemps intriguée. Mais écoutez, mes monstres, ne sont-ils pas bien osés de me faire un bruit pareil dans le dos ? Berce, berce-moi, air charmant, mes sens sont enveloppés dans un doux étonnement. Tes pas, légers comme la neige sur la laine, sont aussi doux que les pas d'un esprit. S'écria la vieille lady à l'oreille d'Agnès. Chantez-moi encore quelque chose, cher enfant. Je vais leur envoyer un message dans le goût de la fameuse épigramme de Juan Cabec. Taisez-vous, vous autres animaux. Et se retournant, elle fit signe à un domestique qui entrait avec des rafraîchissements de venir lui parler, lui disant d'une voix qui pouvait être entendue de la plupart de ceux qui étaient dans la pièce. Posez votre plateau, Johnstone, personne n'en a besoin. « Et faites le tour de la chambre en priant chacun de faire silence pendant que mademoiselle chantera. » Ce fut au milieu du second morceau de chant que Sir Edward et Lady Stephenson arrivèrent. La porte avait été ouverte sans qu'Agnès en eût eu connaissance et sa belle voix, qu'elle développait dans toute son étendue, soutenant avec une puissance accordée à peu d'élus une note élevée, remplissait la chambre d'un volume de son si splendide que la sœur du colonel Hubert s'arrêta toute saisie au moment où elle allait entrer. Ne sachant pas qu'il y eut là, près d'elle, une autre personne de la famille, une personne à laquelle elle aurait voulu plaire presque au détriment de son âme, Agnès chantait toujours. Elle ne leva pas les yeux de dessus la page qui était devant elle tant que le morceau ne fut pas terminé. Alors seulement, elle regarda et aperçut Lady Stephenson, qui s'était glissée sans bruit dans la pièce, se demandant qui pouvait être cette chanteuse si remarquablement douée. Elle se tenait immédiatement en face d'Agnès et la regardait avec une expression de surprise et de plaisir qui valait mieux que tous les remerciements. Aussitôt que la jeune virtuose eut fini de chanter, elle fut gratifiée du bonjour le plus amical et d'une bonne poignée de main, tandis que Lady Elizabeth, la main posée sur l'épaule de sa nouvelle favorite, disait à demi-voix « Qui aurait jamais cru, Emily, que j'en arriverais à recevoir des leçons de vous sur le choix de mes curiosités en nature ? Mais vous avez fait là un coup qui vous fera un immortel honneur.
ce petit oiseau chanteur vaut à lui seul tous mes monstres ensemble. »
Votre seigneurie n'a pas besoin de prendre un air si grave pourtant, ajouta-t-elle encore plus bas. Je n'ai pas l'intention de traiter votre protégée comme si elle venait du jardin zoologique. Elle viendra demain matin et nous saurons bientôt toute son histoire. Je voudrais bien que votre difficile personnage de frère fût ici. Vous rappelez-vous ce qu'il a dit l'autre jour à propos d'une demoiselle de Clifton ? J'imagine que nous aurions une chance d'arriver à modifier l'outrageux jugement dont il l'a gratifié. Qu'en pensez-vous ?
Lady Stephenson répondit par l'admiration la plus vive pour la voix d'Agnès. Elle ajouta :
Voici beaucoup de gens qui arrivent, chère tante. Si Mademoiselle Willoughby veut avoir la bonté de venir demain, nous jouirons beaucoup plus de son talent que maintenant, et je crois qu'elle l'aimera mieux ainsi.
Agnès lui adressa un regard plein de reconnaissance, et tout en passant pour aller se glisser à la place qu'elle avait laissée à côté de sa tante, elle murmura un sincère merci.
« Sur ma parole, Miss Agnès, vous faites de rapides progrès en impudence, » lui dit à l'oreille Mistress Barnabé. « Je désire, s'il vous plaît, qu'une autre fois vous attendiez mes ordres pour chanter. »
Agnès ne répondit point. Rien de ce que pouvait lui dire sa tante en cet instant fortuné ne pouvait lui causer le plus léger malaise sérieux. Elle se sentait joyeuse au-delà de toute atteinte de gronderie et c'était fort heureux car la veuve avait été rarement dans un état d'esprit plus irritable. Son oreille avait entendu la pendule qui était posée sur la tablette de marbre derrière elle sonner lourdement quart d'heure après quart d'heure. 11 heures, l'heure à laquelle elle avait commandé sa voiture, approchait avec de terribles enjambées, et cependant, Lord Mucklebury ne venait pas. Si encore la toilette qu'elle avait faite pour cette occasion n'avait pas été si horriblement coûteuse, elle aurait mieux supporté le contretemps. Mais penser que toutes les séductions que peut inventer une couturière avaient été déployées sans la moindre restriction, et qu'il n'en avait rien vu, c'était dur. Il est vrai qu'avec toute l'opiniâtre fermeté d'une résolution inébranlable, Mistress Barnabé, qui jouait une partie désespérée, dédaignait aussi bien de trembler que de reculer. Néanmoins, elle se disait que faire vendre une partie de son capital 3 fois en 15 jours était une mesure grave, et à chaque obstacle, au moment où elle approchait de ce but qu'elle se croyait si certaine d'atteindre, elle ressentait au cœur une sorte de spasme fort désagréable. Que faire pourtant ? Il fallait s'en aller, presque tout le monde était déjà parti, s'en aller avec un signe de tête bien indifférent de la part de Lady Elizabeth et avec la surprise aussi désagréable que stupéfiante de voir cette Lady prendre congé de la petite fille, de la nièce qui lui devait tout, avec une considération tout autre que celle qu'elle accordait à Mistress Barnabé, en dépit de sa voiture, de son grand valet de pied et de sa magnifique parure. Miss Morrison fut gratifiée d'une place dans la voiture qu'elle avait procurée à si grande peine, et ce fut elle qui, pendant le trajet, prononça les premières paroles.
N'est-ce pas que j'ai raison ? Ne vous l'avais-je pas dit, Mistress Barnabé ? Ne vous avais-je pas averti, ma chère madame, que vous n'aviez pas besoin d'autre chose que de faire chanter cette jeune personne pour devenir la lionne de Cheltenham ? Vous n'avez pas idée du nombre de visites que vous allez avoir demain. Nous verrons.
En vérité, Miss Morrison, répliqua aigrement la veuve, je suis surprise d'entendre une personne douée d'autant de bon sens que vous parler d'une manière aussi insensée. Comment pouvez-vous supposer qu'une femme placée comme je le suis dans le monde puisse désirer les visites d'être semblables à ceux que nous avons vus ce soir ? Et quant à faire parler de cette malheureuse fille sans le sou comme d'une cantatrice, j'aurais honte seulement d'y songer. Souvenez-vous, mademoiselle, s'il vous plaît, qu'à partir de ce jour, je vous défends de chanter, à moins que vous ne vouliez en faire un moyen de gagner votre vie, et il ne serait pas impossible que vous en eussiez besoin quelque jour. Je ne puis répondre que de moi-même, et il n'est pas probable que d'autres soient disposés à se montrer aussi généreusement dévoués que moi, pour une fille qui ne m'a jamais accordé en retour la plus légère affection. » Et elle continua sur ce ton-là jusqu'à ce qu'elle fût endormie.
mais ses paroles tombaient comme des gouttes de pluie sur un parapluie imperméable, elles faisaient du bruit en tombant, sans pouvoir atteindre la tête qu'elles étaient destinées à inonder. Agnès était à couvert dans une armure à toute épreuve, rien ne pouvait la blesser. Heureusement pour elle, une des facétieuses manières qu'employait Lord Mucklebury pour s'amuser le plus possible de la veuve était de lui écrire des billets sollicitant une réponse, réponse qu'il rassemblait avec le plus grand soin dans une grande enveloppe sur laquelle était écrit « Papier Barnabé », dossier qu'il serrait dans un coin de son pupitre, d'où il tirait assez souvent pour faire le bonheur de ses intimes amis. L'un de ces billets, écrit dans l'intention de faire naître un nouveau diamant pour sa collection, fut remis à Mrs. Barnabé au moment où, sortant de la table du déjeuner de l'hôtel, elle se rendait dans son salon. L'émotion que produisait d'ordinaire ce genre de billet était toujours très vive, mais dans cette occasion, elle dépassa les limites ordinaires. Le billet, rempli d'excuses pour son absence de la veille au soir, contenait l'espérance qu'exprimait le noble lord d'obtenir une entrevue pour le matin et demandait une réponse immédiate car le domestique attendait. Mrs. Barnabé, avec des battements de cœur provenant tout à la fois du désir de se hâter et de la joie qu'elle éprouvait, s'assit à sa table, ouvrit son bureau, saisit une plume et allait se hasarder à tracer les mots « Mon cher lord » quand Agnès parut, toute prête à sortir, en disant « Ma tante, puis-je aller rendre visite à Lady Elizabeth ?»« Dieu du ciel, quel moment pour me tourmenter! Allez, allez où bon vous semblera, plein de ma vie! Allez-vous-en une bonne fois, hein ?» Agnès disparut. Un nouveau papier Barnabé vit le jour, et pendant les 3 heures que la nièce passait dans les délices de la plus charmante, de la plus flatteuse intimité, auprès des proches parentes du colonel Hubert, la tante recevait en tête-à-tête Lord Mucklebury, faveur qui permettait au noble lord d'étudier avec soin les regards, les poses, les paroles de la veuve, en lui laissant croire à la réussite complète de l'effet qu'elle voulait produire sur lui. Jamais entrevue n'amena de résultats plus importants. En quittant Mrs. Barnabé, sa seigneurie emportait de quoi tenir en joie pendant plus d'une heure la demi-douzaine d'amis qui dînaient ce jour-là avec elle. Quant à Agnès, inspirée par un si vif désir de plaire que tout ce que désiraient ses nouvelles amies était des ordres pour elle, elle leur contait sa petite histoire, faisant naître en chacune d'elles un intérêt trop puissant pour être jamais oublié, et les quittait avec une confiance en leur bonté qui lui donnait la force d'endurer stoïquement toutes les souffrances à venir, car pendant longtemps encore, elle conserva l'espoir de les retrouver les années suivantes. Ces charmantes relations se répétèrent souvent pendant la quinzaine qui suivit. Mrs. Barnabé était si absorbée par sa nouvelle conquête qu'elle était toujours enchantée lorsqu'Agnès s'en allait. Et tout au contraire, Lady Elizabeth et sa charmante nièce étaient si heureuses de l'avoir auprès d'elle que rarement un jour se passait sans qu'elle leur eût consacré quelques heures. Lady Stephenson, surtout, semblait étudier tout particulièrement le caractère d'Agnès. Il y avait, dans la reconnaissance que leurs bontés avaient inspirée au cœur de la jeune fille, un dévouement passionné qui ne pouvait passer inaperçu et qui, en retour, provoquait forcément de l'affection. Comment Agnès aurait-elle pu cacher à une amie comme celle-là toutes les misères de sa vie intime? Souvent, elles avaient causé ensemble devant Lady Elizabeth sur ce qu'il y aurait à faire pour que la pauvre enfant pût, par son travail, se procurer une sorte d'indépendance. Mais la vie de Lady Elizabeth était que, quelque pénible que fût la vie auprès de sa tante, pour une fille comme Agnès, rien ne vaudrait autant que de rester chez elle et d'avoir un intérieur. Agnès ne comprenait pas clairement sur quoi cette vive opposition à son désir était fondée, et un jour que Lady Stephenson écoutait Lady Elizabeth sans aventurer une réponse à ces mystérieuses menaces d'un danger lointain, elle se décida à dire « Voudriez-vous m'expliquer, chère Lady Elizabeth, ce qui pourrait m'arriver, selon vous, si j'entrais comme gouvernante dans une famille ?»« Vous n'êtes qu'une petite sotte, Agnès, » répliqua la vieille dame sans pouvoir réprimer un sourire. « Mais comme je crois votre ignorance très sincère, je m'en vais vous la dire.
Ne tremblez pas, ma pauvre enfant. Le fait est que vous êtes beaucoup trop belle pour une pareille position. » Le visage d'Agnès se couvrit instantanément d'un rouge rosé des plus célestes. Elle se sentit toute interdite, toute honteuse d'avoir provoqué une semblable réponse, et, quoiqu'elle ne dît rien, elle prit immédiatement la résolution de ne jamais donner à Lady Elizabeth le droit de croire que ses avertissements ne fussent pas sacrés pour elle. Toutes les espérances qu'elle avait fondées sur son habileté à enseigner furent anéanties pour toujours. Et la première fois que sa tante Barnabé fut de mauvaise humeur, ce qui arriva précisément le soir même, pendant leur toilette de nuit, Agnès, dont l'esprit était tout changé, se mit à retourner très sérieusement dans sa tête la pensée qu'il n'était peut-être pas encore trop tard pour apprendre ce mystère si lucratif de la broderie aux plumetis. Une fois seulement, pendant toutes les heures qu'elle avait passées avec les parentes du colonel, Agnès était hasardée à prononcer son nom. Bien souvent, elle avait eu envie de parler de lui, mais elle n'en avait jamais trouvé ni le courage ni l'occasion, quand, un jour, après avoir passé une heure ou deux à chanter des duos avec la sœur de celui qui occupait sa pensée, Lady Elizabeth fit une nouvelle allusion à cette demoiselle de Clifton que son neveu leur avait tant vantée et dont la voix, elle en était bien certaine, devait être à 100 pieds au-dessous de celle de Mademoiselle Willoughby. Ce fut à l'abri de cette observation qu'Agnès s'aventura à dire « J'ai connu un peu le colonel Hubert quand j'étais à Clifton. »« Est-ce vrai ?» dit vivement la vieille dame. « Alors je parierai ma tête qu'il vous a entendu chanter. »«
Il m'a entendu une ou deux fois. »«
Oh oh, tout s'explique. Vous n'avez pas besoin de rougir ainsi à cause de cela, ma chère. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite ?»
« Je ne crois pas qu'il soit aussi certain, » répliqua Agnès, essayant de sourire, « que ce soit de moi que le colonel a parlé. »«
Vous ne croyez pas, ma chère. Eh bien, moi, je le crois. Et je le connais mieux que vous, je suppose. Et qu'est-ce que vous lui avez chanté, Agnès ?»
Agnès cita les morceaux, mais sa voix tremblait si fort qu'elle se repentait cruellement d'avoir attiré sur elle des questions auxquelles elle trouvait si difficile de répondre. Elle fut loin de sentir diminuer son embarras lorsqu'enfin, levant les yeux pour sortir de cette maladroite attitude qui consiste à regarder le plancher, elle s'aperçut que ceux de Lady Stephenson étaient ardemment fixés sur elle.
« Voyez-vous toujours Frédéric Stephenson avec mon frère ?» demanda sa seigneurie. « Ils étaient ensemble à Clifton cet été. Peut-être ne savez-vous pas que c'est là que j'ai été mariée, Agnès ?» Sir Edward et moi y avons laissé nos deux frères ensemble. »
Ce changement de sujet fut pour Agnès un grand soulagement. Elle répondit avec un sang-froid suffisant.
« Oh, si, je savais que vous vous étiez mariés là, car je l'ai entendu dire plusieurs fois. Et je vous y ai vu aussi, Lady Stephenson, le soir de la veille de votre mariage, vous promenant du haut en bas de Gloucester Row avec votre frère. »
« Vous m'avez vu, vraiment? Est-ce que vous vous promeniez aussi, Agnès ?»«
Non, nous étions à la fenêtre du salon et ma tante me fit regarder dans la rue pour me faire voir votre frère. »«
Pour vous faire voir mon frère ?» demanda en souriant Lady Stephenson.
« Oui, parce qu'il est grand, je suppose, » répliqua Agnès de l'air le plus niais qu'elle ait jamais eu de sa vie.
« Et alors, vous nous guettiez quand nous nous sommes promenés d'un bout à l'autre de la rue ? Dites, Agnès. »«
Mais oui, je vous ai vu une ou deux fois, » répondit Agnès en rougissant de la manière la plus pénible.
« Pouviez-vous entendre ce que nous disions, ma chère ?»«
Oh non, mais je suis sûre que ce devait être fort intéressant. Vous parliez avec tant d'animation. » »«
C'était fort intéressant, en effet. Il s'agissait de Frédéric. » « Vous l'avez connu aussi, n'est-ce pas ?»«
Oui, très bien. »«
Vraiment ? Comment ne m'en avez-vous encore jamais parlé ?»
Toute personne qui eût regardé la pauvre enfant, comme Lady Stephenson la regardait en ce moment, n'eût pas manqué de s'apercevoir de l'agitation qui se lisait si visiblement sur ses traits. Immédiatement, l'idée vint à sa seigneurie que Frédéric avait dû déposer son cœur aux pieds de la jeune fille,
ou bien encore que le résultat de cette même conversation dont Agnès avait été le témoin, si ce n'est auriculaire, du moins oculaire, avait été de l'arrêter dans son projet. « Pauvre petite !» pensa Lady Stephenson. « S'il en est ainsi, et si en retour elle a donné son jeune cœur, combien elle est à plaindre !» Cette pensée, que bien des petites choses tendaient à confirmer, ne l'eût pas plutôt frappée que Lady Stephenson se résolut à laisser ce sujet de côté pour jamais. Et ainsi qu'Agnès le désirait en secret, tout en tremblant qu'il n'en fût autrement, il ne fut plus jamais question des deux gentlemen. Les jours et les semaines continuèrent à se suivre jusqu'à l'époque fixée par Lord Mucklebury pour son départ de Cheltenham. La collection des papiers Barnaby, recueillis par le noble lord, était aussi complète qu'il pouvait le souhaiter, et sa seigneurie s'en était donnée à cœur joie avec ses amis sur les bonnes histoires de la Barnaby. Elles étaient si nombreuses et si variées qu'on avait peine à les attribuer à une seule héroïne. Bref, un samedi soir, Lord Mucklebury se séparait de la veuve en lui promettant, avec l'expression mille fois répétée d'une admiration passionnée, de se trouver le lendemain, dès le matin, sur la promenade pour jouir de sa vue. Et à midi, ce même dimanche, emporté au galop par 4 chevaux de poste, il prenait la route de Londres. Pendant la journée entière de ce fatal dimanche, Mistress Barnaby avait erré à travers les promenades publiques de Cheltenham, de l'air inconsolable du pigeon dont le mâle a été tué. Tour à tour, elle avait été triste, puis grognon, puis tendre, puis furieuse, mais pas un seul instant, pendant cette longue et maussade journée, elle n'avait conçu la terrible pensée que celui dont elle voulait faire le compagnon de sa vie se fût envolé pour jamais. Et même le lendemain, quand au salon de lecture elle fit cette question « Lord Mucklebury est-il venu ici ce matin ?» et que l'homme lui eut répondu « Je crois que sa seigneurie a quitté la ville, madame. » Non, même alors, son esprit ne saisit pas la terrible vérité. À la fin, ce fut de la main de son amie Miss Morrison qu'elle reçut le coup. Cette demoiselle entrait dans la chambre de Mistress Barnaby le mercredi soir, tenant un journal de Londres. Elle avait l'air d'être fort irritée. « Mon Dieu, Mistress Barnaby, s'écria-t-elle, regardez, ici !» La veuve saisit le journal d'une tremblante main et, avant de s'évanouir, put lire ce qui suit. « Lord Viscount Mucklebury est arrivé ce matin à l'hôtel Mivart, venant de Cheltenham. Le bruit court que sa seigneurie est sur le point de partir pour le continent afin de passer l'hiver à Rome, plutôt, dit-on, avec l'intention d'y aller baiser les belles mains de Lady M.S. que l'orteil de sa sainteté. »